donc on est en plein cœur de la manif à Rennes contre le PR. Il y a plein de monde, c'est génial.
Bonjour à tous. Écoutez, je vous appelle pour vous faire part de mon enthousiasme. Parce que hier, je suis montée dans un des trois bus qui reliait Caen à Rennes pour la manif anti-EPR. Et puis bah, là-bas, il y avait quand même pas mal de monde. On n'était pas deux ou trois à crier avec des petits panneaux jaunes. Le défilé faisait a priori 1,5 km de long. Et donc voilà, on est rentré tout content. Et ce matin, j'écoute la radio, France Inter en l'occurrence. Les journaux de 9h, les journaux de 9h et 10h, et j'entends une analyse magnifique, pas militante, hein, mais objective, enfin professionnelle, journalistique, avec le nom des manifestants, leurs arguments principaux, enfin bref, un beau compte-rendu de cette manif sur le plan national. Et puis pas du tout ce silence volontaire qu'on pourrait imaginer dans les pays où les médias sont noyautés par un pouvoir corrompu et des industriels tout puissants. Non, vraiment, bravo. Attendez, on me dit dans le casque qu'il y a une erreur sur mes sources. D'accord. Ah non, en fait, pas un mot n'a été dit sur cette manif dans les journaux d'info de 9 et 10 heures ce dimanche matin sur France Inter. Ah d'accord, non, autant pour moi. Je retire tout ce que je viens de dire. Bonne journée quand même. Allez, c'était Cécile de Caen.
On est dimanche 16h15. Je viens d'apprendre à la radio sur France Inter, au Flash, l'arrestation de Cesare Battisti que j'ai défendu en signant toutes les pétitions contre son arrestation. Et j'ai approuvé qu'il s'enfuit. C'est une raison de plus pour que la gauche passe et ne soit pas éliminée dès le premier tour, le 22 avril prochain. Il faut absolument qu'on se mobilise tous et toutes pour sa libération. Hélène, une auditrice modeste et géniale.
J'allume la radio, pas tout à fait réveillée, et j'entends Sarkozy dire « C'est normal que la police collabore. » C'est normal que la police collabore. J'entends ça au réveil. Putain, j'ai du mal. En fait, il parlait de Cesare Battisti. Ça me laisse perplexe pour toute la journée.
Voilà, j'appelle pour citer une phrase de Cesare Battisti en début de l'un de ses livres. Voilà, donc à tous ces magnifiques perdants qui n'ont pas bradé leur mémoire pour pourrir dans un fauteuil. Et je trouve cette phrase magnifique parce qu'elle résume sa vie, son œuvre et son engagement. Et puis je crois qu'il faut dire et redire sans relâche que les responsabilités ne sont pas individuelles, mais collectives. Voilà.
Nicolas Sarkozy, homme politique français. Sarkozy est un homme de petite taille qui fut élu président de la République française au début du XXIe siècle avec 82% des suffrages. Nicolas Sarkozy s'était octroyé les votes des Français en s'adressant à eux dans les termes les plus stupides et les plus crus. Le règne de Sarkozy fut marqué par de graves crises sociales, une répression féroce des masses populaires et une corruption effrénée. Dépassant largement les ambitions de Margaret Thatcher en Angleterre dans les années 80, la politique libérale de Sarkozy restera comme une période noire de l'histoire de France. Atteint d'une psychose caractérisée par la succession à intervalles réguliers d'accès de manie ou de mélancolie, la croisade militaire que Sarkozy mena au Proche-Orient et qui avait pour objectif de reconstruire le temple de David à Jérusalem, déboucha sur la plus dévastatrice des guerres de religion. La mort de Sarkozy reste un mystère, officiellement suicidé dans son bunker. Son corps n'a cependant jamais été retrouvé.
Salut Mermet, je viens d'écouter ce message hallucinant d'un Guyanais là, par rapport à cette mine d'or qui a été trouvée et ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont saccager, ce qu'ils vont violer pour extraire leur putain d'or. Et je voudrais juste rappeler à tous ces gars-là, tous ces gars qui vont décider de faire cette horreur, j'aimerais bien leur conseiller de regarder un film qui s'appelle Délivrance de John Boorman, qui se rappelle que quand la nature, on la maltraite, quand on lui fait violence, et la nature, elle se rebelle. Et ça fait très mal par où ça passe. C'était Pierre-Yves de Paris. Ciao.
Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs de là-bas si j'y suis. Voilà, je m'appelle Pascal, et en fait je viens de regarder le film L'Affiche Rouge. sur France 2, et là, je me dis, c'est quoi l'identité nationale? Est-ce que eux, ils étaient français? Mais bien sûr qu'ils étaient français. Ils étaient français encore plus que moi qui suis français depuis tout le temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'identité nationale. Tout le monde est français. Voilà.
Salut Daniel, simplement pour rappeler aux auditeurs de France Inter qu'il y a actuellement à Montreuil une grève de la faim, cette grève de la faim ayant pour but de faire pression sur le gouvernement pour obtenir un moratoire sur les OGM. Je vous rappelle également que le Monsanto 810, qui est une saloperie génétiquement manipulée, va être certainement autorisé par le gouvernement par décret bientôt, de manière totalement antidémocratique, puisque l'Assemblée nationale n'a même pas été consultée. Voilà, je voulais le rappeler à tout le monde, à toi Daniel. Merci, à bientôt.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Je vous signale la tenue d'un meeting de soutien au peuple irakien, vendredi 23 mars à partir de 18h30 à la Bourse du Travail, 3 rues Château d'Eau à Paris, métro République. Sera présent notamment le député britannique, l'excellent George Galloway. Alors, venons nombreux, montrer que même en période électorale, les Français n'oublient pas les peuples qui résistent aux occupations désastreuses. Merci, Nicolas, de Convergence des causes.
Oui, bonjour, le répondeur Daniel, c'est Liane à Lyon. Oui, je voulais laisser un petit message parce que je suis un peu surpris, les médias ils parlent, une candidate, une femme au présidentiel, une femme. On a déjà depuis 74 une femme candidate. Alors il me semble que c'est un déni vis-à-vis d'Arlette Laguiller de son côté femme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Revenons, regardons les choses telles qu'elles sont historiquement. Ça fait effectivement depuis 30 ans, 33 ans qu'on a une candidate femme au présidentiel. Ce n'est pas nouveau.
Merci pour tous ces messages, amis AMG, auditeurs et auditrices modestes et géniaux, modestes et géniales. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, on part en Chine. On va faire un grand tour dans cet immense pays, ce gros morceau qu'est la Chine, cette multitude, cette foultitude. Et bien sûr, on va se sentir tout petit, nous, venant de notre tout petit pays, mais on va essayer de voir le lien qui peut exister aujourd'hui, bien sûr, entre cet éléphant qui fait du vélo et nous-mêmes. Éléphant qui fait du vélo. Et pourquoi il a dit ça, le monsieur ? Eh bien, on va essayer de s'en expliquer. À commencer par aujourd'hui, où nous allons arriver à Pékin. Avant cela, encore un message parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, concernant l'émission sur l'euthanasie. On a reçu beaucoup de messages à ce sujet, touchant, bouleversant, beaucoup d'interrogations de toutes sortes, et toujours des choses très profondes, très prégnantes. On fera peut-être une émission spéciale avec vos messages. En tout cas, en voici un aujourd'hui qu'on a trouvé particulièrement intéressant, vous allez en juger. Et puis ensuite donc, en route pour la Chine.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour à tous les auditeurs modestes et géniaux. Voilà, je téléphone parce que je viens d'entendre par internet l'émission La fin de Jacobs. Je suis moi-même médecin, vivant en Belgique, travaillant manifestement dans l'hôpital où l'acte a été accompli il y a quelques années. J'ai moi-même accompli cet acte il y a quelques semaines et c'est pour vous dire que c'est extrêmement dur. Depuis que j'ai fait ça, il ne passe pas une nuit sans que j'y pense. Ça se fait d'une manière assez ritualisée avec deux médicaments qui sont prévus et puis un troisième en cas de secours. En l'occurrence, j'ai pratiqué l'acte à une personne qui souffrait d'une maladie neurodégénérative mortelle, qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. C'était extrêmement stressant. J'étais en présence de la femme de l'homme qui avait 50 ans, en présence de ses deux filles qui avaient un âge situé entre 15 et 20 ans. Et quelques minutes après qu'il a arrêté de respirer, il a commencé à présenter ce qu'on appelle des fasciculations, donc des mouvements un petit peu anormaux des muscles. Et j'étais extrêmement stressé parce que ça donnait l'impression qu'il était encore vivant et extrêmement bouleversant. Et on a beau avoir fait des choses dans le cadre de son métier, c'est une expérience dont on ne ressort pas indemne. Et bien que philosophiquement et éthiquement, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait, je dois vous dire qu'à titre personnel, je ne suis pas certain que je le referai à nouveau.
La Chine, un éléphant qui fait du vélo.
On a très très bien mangé, là on est reçu dans une aile de votre château, sous les dorures, les lambris. On a mangé un repas qui n'en terminait pas avec une quinzaine de plats, de la langouste et je ne sais quoi. On a trinqué toutes les 5 minutes avec du Bordeaux. Mais la première question c'est, est-ce que vous avez une idée de votre fortune ?
Comment vous avez fait pour venir sans problème ?
Je suis venue au risque de perdre ma vie pour vous raconter tout ce que j'ai vécu. De toute façon, on perd notre terre, on n'a plus de quoi vivre. De toute façon, on va mourir.
Non, vous n'avez plus rien à perdre, c'est pour ça que vous parlez.
Oui.
Bienvenue en Chine. Bienvenue en Chine.
Nous, on est français.
Oh. Flance.
On vient de Flance. Ouais, c'est ça. Tu connais la Flance ?
Je crois que c'est là-bas. Là-bas, si je suis français.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Guy Vanctil. Un voyage dans le miracle chinois.
Flight number 2, arriving from New
C'est le grand stade. Hein? Ce sera le grand stade. Ah, c'est pas mal quand même. Hein? On est dans le chantier du site des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Alors là, on est au pied de ce qui va être l'endroit, le lieu, on peut dire l'objet le plus photographié au monde en août 2008. C'est le grand stade de Pékin pour les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que c'est ce grand stade ? C'est un nid d'hirondelles. C'est les structures et les nervures et l'emmêlement des fils d'un nid d'hirondelles. C'est absolument magnifique. Là, c'est en cours de travaux. Les gars sont au boulot. Minuscule avec des casques jaunes. Et là, c'est l'immense site. Il y a une brume légère. Je ne sais pas si c'est dû au climat, au temps ou à la pollution. Et derrière nous, il y a un grand cube de glace, on pourrait appeler ça. Une très belle construction aussi, qui sera la piscine olympique, qui est déjà là, la piscine olympique. Enfin, je pense que c'est à peu près construit.
Et des dizaines et des dizaines de grues à perte de vue. Là.
Et là, c'est en construction, il y a toutes les baraques, les baraquements des ouvriers qui sont sur ce chantier. Et alors, on dit que les Chinois auront fini en avance. Les Grecs à Athènes étaient en retard et les Chinois seront en avance. Alors on ne sait pas, ça absorbe des dizaines de milliers de bras et d'ouvriers. Et donc ce sont les fameux Mingong qui sont une sorte d'immigration intérieure. Et voilà, on va essayer de s'approcher un peu plus. Ce sera, n'en doutons pas, La seconde la plus attendue, l'instant le plus regardé au monde, le 8 août 2008, soit le 8-08-08, à 8h08, s'ouvriront les Jeux Olympiques de Pékin. La forme du 8 étant le symbole de la prospérité. Et c'est là, bien normalement, que nous nous empressons d'aller en arrivant à Pékin par cette grise matinée d'hiver. Pourquoi le 8? Parce que le 8, c'est le symbole de la prospérité. 1 million de travailleurs migrants provenant des campagnes chinoises travaillent à la construction de ce site olympique et notamment de ce que nous voyons devant nous, c'est-à-dire ce fameux nid d'oiseau. Vous l'avez peut-être déjà vu, en tous les cas vous le verrez sous toutes les coutures l'an prochain, construit de, qui rappelle la nid d'hirondelle, fait de 50 000 tonnes de poutres d'acier géante entrecroisées et qui ne repose sur aucun pilier vertical, une des prouesses de ces Jeux Olympiques de 2008. Et maintenant, voyons une petite histoire qui peut se produire, qui pourra se produire en août 2008. Un athlète éthiopien remporte la médaille d'or des 10 000 mètres. Or, suite à un contrôle à l'arrivée, il est disqualifié pour dopage. L'athlète et son entourage protestent. Jamais au grand jamais, il n'a pris le moindre produit interdit. Alors, on refait un second contrôle et même résultat, il est positif, rien à faire, sa carrière est foutue. Et pourtant, en effet, l'athlète éthiopien est de bonne foi. Depuis qu'il est arrivé, parmi les 10 000 athlètes présents sur le site olympique, il se contente de plats tout simples dans un restaurant du coin, des plats de poulet ou de porc avec une petite salade. Or, selon Yang Shuming, un éminent chercheur, ancien responsable du contrôle antidopage en Chine, les produits alimentaires chinois sont hautement contaminés et contiennent notamment des substances prohibées, dont des stéroïdes anabolisants. En Chine, les règles de sécurité alimentaire ne sont pas appliquées, si toutefois elles existent, et pour faire grossir le bétail, les éleveurs n'hésitent pas à donner massivement des stéroïdes anabolisants au bétail. Ainsi, cet athlète éthiopien, malgré sa bonne foi, pourrait très bien se retrouver déclassé et jeté, ayant mangé ce que mangent nombre de Chinois aujourd'hui. C'est une histoire, un scénario pas si invraisemblable que ça, et en tout cas en forme d'amuse-gueule par rapport au coût humain du miracle chinois. Si, en débarquant à Pékin ce matin-là, on comprend qu'on ne comprendra pas tout à cet univers immense et divers, qu'une vie ne suffirait pas pour explorer, ne fût-ce que superficiellement, comme disait le talentueux écrivain Simon Leys, si cette multitude, cette foultitude de 1 milliard 350 millions d'âmes, si cette croissance à deux chiffres depuis des années, si ces bouleversements, ces renversements, ces chiffres toujours époustouflants, si tout cela nous rend modestes, nous restons quand même assez géniaux pour comprendre, même si nous ne sommes pas des sinologues d'experts, pour comprendre que toute l'énergie, tout le dynamisme du miracle chinois repose sur l'exploitation systématique et entretenue de centaines de millions de sous-prolos payés entre 10 et 30 fois moins cher qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Alors, c'est vrai que pour les chinolâtres, les sino-béats, il y a la Chine qui fascine. C'est la Chine fascinante. Alors, cette Chine fascinante, elle a deux faces. Celle qui fait peur et celle qui enthousiasme. On va voir que ça date pas d'hier, ce mélange de fascination, à la fois de peur et d'enthousiasme. Mais la question qui se pose à nous, qui vivons dans une zone d'Europe où depuis 25 ans, On assiste à la destruction d'emplois, à la montée du chômage, à la précarité généralisée à toutes les couches de la société, ou presque. On sait ce que sont les délocalisations et on peut se consoler, si toutefois c'est une consolation, en se disant que, eh bien, si nous connaissons ces difficultés, ce que d'autres avaient en d'autres temps appelé une crise, eh bien, dans les pays pauvres, dans les pays en développement, comme l'on dit pudiquement, c'est un bien puisque ça va permettre le décollage, ça va permettre un certain développement. Or, si cela a été vrai pour ce qui concerne la Chine, après ce qu'on a appelé l'ouverture, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les écarts ne cessent d'augmenter entre la minorité la plus riche et l'immense majorité la plus pauvre. Selon la Banque mondiale, 70% des bas revenus ont vu leur pouvoir d'achat baisser cette année, en 2006. 10% des Chinois les plus pauvres se sont appauvris. Quand on dit 10% des Chinois les plus pauvres, ça fait quand même 135 millions de Chinois. Entre 2001 et 2003, les 10% les plus pauvres ont perdu 2,5% de revenus, alors que les 10% les plus riches voyaient leurs revenus augmenter de 16%. Toujours selon ce tout récent rapport de la Banque mondiale, le produit national brut de la Chine ne cesse d'augmenter, mais c'est les classes moyennes supérieures qui en profitent au détriment de ceux qui ne cessent de s'appauvrir. Et je le répète, c'est la Banque mondiale qui le dit dans ce rapport. Et elle indique également, au passage, que 6% des familles possèdent plus de 40% des biens financiers du pays. Et là, évidemment, on s'interroge. On s'interroge sur l'admiration devant ce miracle chinois, devant cette fascination qu'éprouve bien du monde, bien des médias, bien des politiques qui vont faire un tour là-bas, bien des intellectuels. C'est pourquoi nous partons dans les coulisses de ce miracle, à l'envers de ce miracle, un voyage dans le miracle chinois, dans la basse Jésuite.
Ah, vous êtes des ingénieurs étrangers.
Voilà.
C'est ça.
Hey,
c'est drôlement beau, ça, hein. C'est beau, hein.
Ah, ça va, c'est pas mal. Ah, ça fait longtemps que je suis là. Moi, je m'en fous un peu maintenant.
Hein. Ah bon?
Ah oui, il s'en fout un petit peu, notre ami que nous rencontrons à l'instant même. Autour de cette formidable construction, ce nid d'hirondelle qui sera le clou des Jeux Olympiques de 2008, Lui, il est là, endormi à moitié, sommeillant sur le volant de son camion et attendant qu'on lui demande d'aller, de venir, de transporter ça et là les matériaux nécessaires à cette fabuleuse construction. Il n'est pas seul, le chauffeur de ce camion. Ils sont un million de travailleurs qui travaillent sur ces chantiers, les chantiers des Jeux Olympiques de Chine. Je dis Chine parce que ce ne sera pas seulement à Pékin. Il y a 38 sites à Pékin, dont 38 sites en Chine, pardon, dont 31 à Pékin. On attend entre le 8 et le 24 août 2008 22 000 journalistes, 10 500 sportifs. Il y a 100 000 bénévoles qui travailleront et qui seront à la disposition de tous. Et le coût estimé pour l'instant est de 41 milliards de dollars, soit trois fois plus qu'à Athènes. On s'attend évidemment à des chiffres époustouflants et l'on n'est pas déçu. 300 000 personnes, soit 300 000 résidents du centre-ville ont été délogés de leurs maisons qui ont été rasées pour construire de nouveaux buildings dans la perspective de ces Jeux Olympiques. Donc, grand bouleversement dans cette ville. Et les travaux seront finis, l'installation sera finie, le site, tout sera prêt avant l'échéance. C'est un défi que se lance la Chine et que la Chine lance au monde pour montrer évidemment sa puissance. Puissance qui effraie, puissance qui fascine. Est-ce que notre ami chauffeur qui se trouve là, lui, est très fasciné par tout ça?
Alors, ça va le travail?
Comment ça?
Le boulot?
T'es là, gagner de l'argent.
Tu es un Mingong, ce qu'on appelle les Mingong?
Ouais,
on peut dire que je suis un Mingong. Je suis chauffeur, mais je suis Mingong.
C'est ça. Moi, je suis Shandong.
Je viens du Shandong.
C'est loin alors?
400 km.
Ah, il y a à peu près 400 km.
Non, mais.
Ah non, on est des paysans.
Ah bon?
Ah ouais.
Et depuis combien de temps vous êtes à Pékin?
Moi, de Pékin, 2000
ans. Ça fait 10 ans que je suis à Pékin.
10 ans? Et ça marche bien?
Pas facile, hein? Plus facile.
C'est pas facile?
Pour gagner de l'argent.
Ouais.
Pas facile.
Ouais. Et vous envoyez de l'argent là-bas au pays?
Ah ouais, je gagne l'argent ici, puis je le dépense chez moi, dans le Shandong.
Et ici, vous êtes avec la famille, avec la femme et les enfants ici?
Ouais, ils sont tous ici. Tous des enfants. J'ai deux enfants.
Et si c'est pas indiscret, combien on gagne comme chauffeur de camion de chantier comme ça?
2000 kwai à peu près.
2000 kwai par mois, 200 euros.
Tout droit.
Ah, c'est pas assez. C'est tellement peu, tellement peu.
Tu gagnes 2000 kwai par mois, mais pour combien d'heures de travail?
Des fois, je travaille toute la journée, du matin jusqu'à la nuit. À partir de 5h du matin. Jusqu'à 10h le soir. Je suis disponible pour bosser.
Et combien de jours par semaine?
Non, il n'y a pas de jour de repos. Tous les jours de la semaine.
Ah oui, quand ils veulent te faire travailler.
Ouais, c'est ça. Le patron me dit que je travaille tant.
Ah, tu te reposes jamais?
Ouais, si tu te reposes, tu gagnes pas d'argent.
Voilà, 200 euros par mois pour ce chauffeur de camion. Il fait partie donc de ce million, un million de travailleurs migrants. On dit les Mingong, qui sont ces travailleurs qui viennent des campagnes, qui se fixent ou reviennent dans leurs campagnes selon les régions, selon les opportunités, et qui sont la véritable masse qui est la raison et le moyen de ce miracle chinois. C'est l'exploitation de cette multitude de migrants de l'intérieur qui permet ce miracle en grande partie. Mais là, on évidemment, on se dit quel épouvantable régime. C'est un régime à la fois communiste et capitaliste. C'est absolument monstrueux. Mais il faut quand même savoir, et le gouvernement chinois est très surprenant, a surpris récemment, avec notamment ses déclarations sur l'environnement. Là, c'était des déclarations sur la propriété privée. Il y a eu une déclaration de ce gouvernement qui a passé un peu plus inaperçu dans la presse internationale. C'était tête au début de cette année, devant l'augmentation des conflits sociaux, on en parlera de ces conflits sociaux, qui se multiplient à travers la Chine. Pour 2005, c'est plus de 80 000 conflits sociaux qui ont été dénombrés par les autorités elles-mêmes. Donc, au début de cette année, le gouvernement chinois a décidé de renforcer la protection des employés. Alors, évidemment, ces déclarations sont généralement accueillies avec une certaine réserve, avec un certain scepticisme de la part des observateurs. Mais enfin, ces déclarations sont tout de même faites. Et bien, aussitôt, après cette déclaration-là, en tout cas, les représentants des entreprises étrangères se sont montrés très critiques, et notamment la Chambre de commerce des États-Unis qui a déclaré que ces mesures créeront le chaos dans le monde du travail, affaibliront la compétitivité des entreprises chinoises et auront des conséquences négatives sur l'économie nationale. Le bien-être du travailleur chinois, c'est toujours la Chambre de commerce américaine qui parle, c'est quand même pas mal. Le bien-être du travailleur chinois ne dépend pas seulement de la loi du travail, mais aussi de la survie et de la croissance continue des entreprises où ils travaillent. Fin de citation. C'est une citation intéressante parce que faut bien avoir présent à l'esprit, tout au cours de ce voyage, que le boom chinois, le miracle chinois, continue de profiter d'abord aux groupes étrangers. Ce qui fait d'ailleurs qu'on va rencontrer tout au cours de ce voyage des Chinois qui sont assez sceptiques face à ce boom, qui se disent « mais notre pays ne nous appartient plus ». Il y a un fort sentiment national, pour ne pas dire nationaliste en Chine, et qui trouve que tout ça, ça rapporte plus aux étrangers, aux longs nez présents en Chine, enfin dont les entreprises sont présentes en Chine ou qui ont investi en Chine, plutôt qu'aux Chinois eux-mêmes. Alors voilà, ce chauffeur de camion qui attend près de ce qui sera vraiment, en ce mois d'août 2008, la photo du mois.
Ici, tu as trouvé une maison. Comment tu as réussi à te loger ici avec ta petite famille?
Je loue mon logement. Ça me coûte 300 kwai par mois.
J'en gagne 2000. Ça fait 30 euros de logement. Et les enfants, tu les envoies à l'école?
Ouais, il va à l'école.
Et tu payes pour l'école?
150 par mois, les frais de scolarité.
Et si t'es malade, t'as une sécurité sociale, t'as quelque chose?
C'est le meilleur. Non, y a pas tout ça. Meilleur. Moi, j'ai pas droit à tout ça.
Le meilleur. Supposons que ta femme, elle a besoin d'une opération grave. Qui est-ce qui paye?
C'est moi qui vais payer les frais de l'hôpitalisation. Ça, c'est le patron, il s'en occupe pas de ça.
Et t'as pas d'assurance?
Meilleur. Non, j'ai pas d'assurance.
Et ça fait 10 ans que tu es à Pékin comme ça?
Ouais, pendant 10 ans, ça a toujours été comme ça.
Et dis donc, pour parler d'autre chose, comment tu trouves un peu ce qui se construit là? Ici, on est sur le site des Jeux Olympiques, c'est en construction, le chantier avance, là on voit ce magnifique stade en nid d'hirondelles, on voit etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Tu trouves ça beau?
On doit pouvoir dire que c'est beau.
Est-ce que tu vas essayer d'assister à certaines épreuves?
Évidemment, j'ai envie d'en voir. Le problème, c'est qu'en 2008, les Mingong, les gens qui viennent de l'extérieur de Pékin, on ne pourra pas rester ici, à Pékin.
Ils vont vous mettre dehors?
Nous, on est dans la construction, donc on ne devrait pas être expulsé. Mais les autres Mingong qui n'ont pas de travail ou qui ne sont pas dans la construction, ils seront renvoyés chez eux.
C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on va expulser les Mingong pour les Jeux Olympiques de 2008?
Très loin. On a peur qu'il y ait du désordre avec tous ces Mingong.
Est-ce que vous essayez de vous défendre et de vous organiser un peu entre vous, les Mingong? pour obtenir des meilleurs salaires,
non,
tout ça.
Non, bien sûr, des syndicats, des organisations comme ça.
Est-ce que...
Ça le fait rire, ça.
Évidemment, il n'y a pas tout ça.
Et comment c'était que la vie quand tu étais petit? C'était la campagne?
Ouais, c'était dur, la vie à la campagne, quand j'étais petit.
Ouais,
la plupart du temps, quand j'avais 10 ans, on mangeait de la farine de maïs, quoi.
Mais vous mangez de la viande ?
On avait terriblement envie d'en manger, mais on n'avait pas d'argent pour acheter. Non, non, à cette époque-là, on n'avait pas d'argent pour acheter de la viande.
Alors, qu'est-ce que tu espères pour tes enfants ?
Évidemment,
avec tout l'argent que je gagne, j'espère que je vais pouvoir envoyer mes enfants à l'école.
Et jusqu'à quel âge tu es allé à l'école ?
Jusqu'à 13 ans.
Ok, mais nous on te pose des questions, tu peux nous poser des questions aussi. D'où on vient d'après toi ?
J'en sais vraiment rien, j'ai envie de vous demander. Alors, d'où est-ce que vous venez ?
D'après toi ?
Ouais, je sais pas du tout, ça, c'est difficile de savoir. Hein. Difficile à dire.
Tu crois qu'on est américain ?
On dirait que non.
Des Russes ?
Non, les Russes, ils ont des nez beaucoup plus gros que les vôtres.
Oui, ils ont des gros nez, des rouges.
Ouais, c'est ça, ils sont rouges les nez.
Ils sont toujours des gros nez rouges, les Russes. Non, nous, on est français.
France.
On vient de France. Tu connais la France ?
Non, je sais pas où c'est la France. Je sais pas où c'est.
Lafitte Castle. On est en pleine campagne, là c'est un peu la brousse, c'est un peu la brume. On est passé par des autoroutes, devant des immeubles incroyablement hauts en construction à perte de vue. Et puis tout d'un coup on a pris sur une petite route à gauche, pas loin de l'aéroport. Et là, c'est un peu comme si on avait une hallucination. Welcome to Lafitte Château, mais un château français avec ses toitures à coupole, à chien assis. En pierre blanche et à gauche, eh ben c'est une construction.
C'est une nouvelle construction. C'est plutôt des petits châteaux privés, comme le petit villa est pas très grand, ça fait 2 étages et à peu près 200 mètres carrés.
Ah oui, oui, c'est très modeste par rapport à celui qu'on voit là. Rousy, expliquez-nous où on arrive là.
Et maintenant, nous sommes au château Lafitte de Pékin. Ça se trouve à peu près de 30 km au centre de Pékin. Ça fait construire il y a 2 ans.
Et là, on rentre, on passe devant. Il y a des statues, des cariatides, des urnes de style gréco-romain, une grande fontaine en bronze avec au milieu Neptune. Et des grosses et belles voitures garées devant l'entrée du lobby. Voilà. Alors j'arrive pas à voir si c'est de la vraie pierre ou si c'est de l'assemblage. Je touche la façade. Ah oui, c'est du faux. Et nous voilà dans une entrée avec lustre, sol en marbre, dorure, musique, luxe, calme et volupté. Et on voit là sur les côtés, il y a des tableaux qui représentent l'Arc de Triomphe, le château de Chenonceau, le château de Chambord. Là, une petite scène champêtre typique dans le style un peu poussin. Des fauteuils Louis XVI. Un énorme hall avec des lustres, ça peut faire salon de réception.
Ah, magnifique, non? Hein? Ah, vous voyez bien que la culture française est quand même encore influente et prestigieuse dans le monde et vient couronner des années qui ont suivi la fameuse déclaration de Deng Xiaoping, s'enrichir et glorieux. Eh bien, la voilà, la gloire de ceux qui se sont enrichis dans cette Chine et qui ont construit, vous avez compris, peut-être déjà, d'immenses châteaux, dont celui-ci, Château Lafitte, à 30 km de Pékin. Eh bien, on pourrait être comme à la maison, comme en France, un château entièrement reconstitué avec tout ce qu'il faut. Et on va en avoir une idée un peu plus précise avec Madame Ognon. Oui, elle s'appelle Madame Ognon et c'est notre guide et la conseillère de nos hôtes.
Ah, si on regarde par la fenêtre, c'est impressionnant, la vue. C'est Madame Jean.
C'est Madame Jean.
C'est la maîtresse des lieux, alors.
C'est la châtelaine.
Et alors vous, Madame Ognon, vous êtes la conseillère, la consultante.
Je les accompagne depuis 2001. C'est l'ambassade de Chine qui m'avait demandé de rencontrer Monsieur Chang à Pékin. Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a fait part effectivement de son choix de construire un château, un petit château avec un chai, parce qu'il voulait communiquer autour du vin. Et puis, il arrive à Paris, sans s'annoncer, fin juillet, et un vendredi soir. Qu'est-ce qu'on peut faire en France cette saison? Rien. Surtout, je n'avais absolument rien préparé. J'avais la chance d'habiter Maison Lafitte.
Le Maison Lafitte des Yvelines.
Oui, des Yvelines, exactement, le vrai. Le lendemain matin, je lui ai donné rendez-vous vers 10h. Je l'ai emmené vers Maison Lafitte. Et quand il a aperçu le château, quand on arrive à Sartrouville et qu'il aperçoit le château au loin, il a fixé son nez près de mon pare-brise. Il fixait le château sans dire un mot. Je l'ai posé à l'intérieur de la cour du château. Et au bout d'un quart d'heure de silence, il m'a dit « Je veux rien voir d'autre, je veux le même. » C'est pour ça que le château se retrouve là. C'est vraiment le jeu
du hasard. Ici, au nord-est, nord-est on est de Pékin ?
Nord-est de Pékin, oui. Nous sommes à moins de 30 km du centre de Pékin.
Et alors, à quoi il sert ce château ?
C'est pas sa résidence, il n'y vit pas. Il veut tout simplement montrer un petit bout de la France à ses amis chinois. Dans des réceptions, en organisant beaucoup de dîners autour de ses amis. Et puis, c'est un lieu de séminaire pour les grandes entreprises chinoises ou étrangères. Puis, un lieu de mariage. À partir du printemps, quand tout est vert, il y a 3, 4, 5, 6 mariés par jour qui viennent faire leur book de mariage. Parce qu'on se marie sur catalogue, surtout ici en Chine. Oui, surtout.
Alors, je veux le château, le lustre.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et après, on montre à la famille où on s'est marié. Elles sont en jolie robe de mariée, mais en basket et en jean dessous.
Ah bon ? C'est l'image.
Voilà, c'est l'image. Nous allons déjeuner ici.
Ah d'accord, on rentre dans un salon à part. Et on rentre dans un salon, oh là là, impressionnant là.
Un salon tout doré.
Tout en lambris doré.
Doré, exactement. comme à Versailles, puisque monsieur et madame Chang souhaitaient avoir un intérieur un peu plus sophistiqué, pas tout à fait comme celui de Maison Lafitte. Il a été construit très rapidement,
ah bon,
très très rapidement, avec des milliers de petits ouvriers qui ont fait à la main toutes ces moulures. Ça a été fait comme à l'époque de Louis XIV, puisque tous les documents de les vieux d'Alembert, je les ai fait traduire en français contemporain,
oui,
puis après en chinois. Et ils ont repris ces documents, ils ont travaillé sur la terre, sur le plâtre, de la résine, et après chaque petit ouvrier avait son morceau de sa plaque de bois, il taillait. Donc ça a été fait vraiment dans la tradition. C'était incroyable, c'était fascinant, vraiment fascinant de les voir travailler et surtout s'approprier notre culture avec une telle facilité. J'étais émerveillée, mais vraiment émerveillée. Comme il a beaucoup investi dans la construction,
combien ça a coûté d'ailleurs?
Oui, c'est difficile à dire parce que la construction s'étend tellement, mais je crois que le château c'est 50 millions d'euros.
50 millions d'euros, quand même.
Oui, ça fait une petite somme. On a importé la pierre de France.
Ah bon?
Oui, oui, bien sûr. Ça coûte cher, quand même.
Alors on trinque. Est-ce que ça ne provoque pas l'envie de tous les autres, de tous ceux qui n'y arrivent pas?
Effectivement, il y a toujours autant de pauvres. Ils sont un petit peu moins pauvres qu'ils étaient dans les années 90 ou 80.
Mais si le riche s'enrichit, le pauvre...
S'enrichit aussi, exactement. La société s'élève, donc bien sûr que les différences sont toujours là. Ça, c'est clair. Mais je dis souvent, ce qui a fait la richesse de la Chine aujourd'hui, c'est tous ces petits ouvriers qui ont du travail, qui ont travaillé durement et qui ont enrichi leur pays. Et si la Chine est là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces petits ouvriers.
Voilà, et puis j'imagine que pour beaucoup, M. Zhang et son épouse sont la preuve que le système capitaliste marche.
Il fonctionne très très bien. Il suffit d'aller dans la rue, lever les yeux et vous voyez des jolies voitures dans le quartier, des maisons magnifiques, puisque aujourd'hui, avoir une maison, c'est 1500 mètres carrés.
Ah oui.
Entre 1000 et 1500 mètres carrés. Donc,
pourquoi faire moins quand on peut faire plus?
Quand on peut faire plus, bien et beau. Et riche, surtout.
Comme ça.
Hebei.
Ah, on vient du Hebei.
Hebeijang.
Ah,
la province du Hebei.
Est-ce que vous êtes des Mingong?
Oui.
Vous êtes tous des Mingong. Tout ça, c'est des Mingong.
Ça fait 3-4 ans qu'on est Mingong.
Et qu'est-ce que vous faites comme travail?
On est en train de construire le stade là.
Waouh, mais c'est immense ce stade. Hein. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire.
Oui, c'est vraiment grand.
Voilà, c'est vraiment grand.
Ah oui, grandeur pour grandeur. Elle vous appelait Madame Ognon, hein. On va la retrouver dans son grand château, Lafitte, avec le monsieur Bang et Madame Bang et Guy Vantin. Mais on les a laissés déjeuner, ils sont en train de manger, se gaver de langoustes avec du Bordeaux, etc. On va les laisser de côté. On revient, nous, équilibre social, là-bas, si j'y suis, oulala, 50-50, on revient avec les Mingong, avec les petits ouvriers. Elle a dit, Madame Ognon, les milliers de petits ouvriers, j'ai petits ouvriers qui ont fait tout le travail, les petits ouvriers, et bien voilà des petits ouvriers, là, sauf qu'ils ne sont pas en train de faire un château, mais presque, ils sont en train de construire la cité olympique, le stade olympique qui vous émerveillera, nous en sommes persuadés, cet été 2008. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ?
On
fait les gouttières.
Et combien on gagne quand on fait ce travail-là ?
C'est entre un peu plus de 1000 kuai et puis jusqu'à 2000 à peu près.
Entre 100 et 200 euros. Quoi.
Entre 100 et 200 euros. Et c'est bien payé ça ?
Non, c'est pas beaucoup. Ouais, les salaires sont pas très élevés pour construire ce truc.
Et combien d'heures vous travaillez par jour ?
Un peu plus de 8 heures par jour.
Un peu plus de 8 heures ?
Ouais, tous les jours 8 heures.
Est-ce que vous serez là au moment des Jeux Olympiques, vous ?
C'est pas sûr qu'on soit à Pékin.
Parce qu'on nous a dit que les Mingong seraient expulsés. C'est vrai ?
Mingong,
c'est possible, ouais, c'est possible.
Mais c'est ce que vous craignez ?
Ouais, ouais.
Ah. Vous vivez dans les baraques là-bas, vous dormez dans les baraques ?
Ouais, c'est dans des dortoirs.
D'accord.
Ouais, c'est comme à l'armée.
Alors qu'est-ce que vous espérez ?
Ouais, bah bien sûr qu'on veut faire fortune.
Et toi, de quoi tu rêves ?
Bah moi j'ai envie de rentrer chez moi, voir ma femme et mes enfants.
Et ils sont loin ?
Ah, moi je viens du Renan.
Mais ça c'est loin le Renan.
Ouais, c'est vraiment loin.
Tu vas rentrer là pour le premier de l'an ?
Ah ouais, je rentre pour le nouvel an.
D'accord, alors alors qu'est-ce que tu vas leur ramener ?
Moi je rapporte de l'argent. Voilà, c'est
tout.
T'as combien d'enfants ?
J'en ai deux.
Deux ? Et tu fais vivre tes parents aussi ? Tu aides tes parents ?
Ouais,
ils
sont à la ferme et ils cultivent.
Ah, tu es un paysan ?
Ah non, mais...
Ouais, je suis paysan.
Et t'es venu parce qu'on pouvait plus vivre comme paysan là-bas ?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour le travail. La raison, c'est le travail.
Et lui, il nous disait que quand il était gosse, il y avait juste du maïs à manger, il n'y avait même pas de farine de blé. Toi, c'était pareil ?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais en fait, ceux qui construisent les stades des Jeux Olympiques... Ils ne seront pas là au moment des Jeux Olympiques, ils n'auront pas le droit d'y assister. Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas les papiers, c'est des sans-papiers. Les Chinois, les Chinois, ils ont inventé les sans-papiers de l'intérieur. Nous, on était obligés, quand on a un tout petit pays de rien du tout, on était obligés d'avoir le sans-papiers dehors. Ouais, pour leur interdire l'accès, les prendre quand on veut.
Pour l'instant, ils n'ont encore rien dit, on ne sait pas trop.
Les exploiter quand c'est nécessaire. Et puis les jeter quand on n'en a plus besoin.
C'est exactement ça.
Allez, on va pas vous prendre votre temps plus longtemps. Allez, on va vous laisser. Ok. Bonne chance. Bye bye. Voilà, merci à tous. Un reportage de Yvan Thiel. Merci à Madame Ognon, Madame Chang, Routy, Stéphanie, Olivier et à tous nos amis Mingong des chantiers des Jeux Olympiques de Beijing. Traduction Yang Yang et Luc Richard. La Chine sera-t-elle notre cauchemar ? Les dégâts du libéral communisme en Chine et dans le monde. De Philippe Cohen et Luc Richard. C'est aux éditions 1001 Nuits. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. On a parlé de l'euthanasie. Nous vous informons également que l'association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, a réalisé un livre blanc intitulé Fin de vie. une nouvelle loi est indispensable. Voilà, vous pouvez vous renseigner, trouver des documents sur ce, sur cette question sur le Internet. À la technique aujourd'hui, Mathias Talion et Eric Morin. C'est Yann Chouquet et Coyenne Guyenne qui ont réalisé cette émission, qui a été montée par Raphaël Moutard, assistant de Charlotte Perry, et Christophe Imbert. Écoute vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et nous vous écouterons demain. Réclame.